Je suis frère K, frère et sœur dans la chair, présent dans cette chair. Je viens à vous afin de parachever ce qu'il est convenu d'appeler dorénavant le déploiement de la lumière. Et je viens vers vous pour vous entretenir d'un certain nombre de faits et d'éléments concernant l'amour humain et l'amour Christ. Je vais, si vous le voulez bien, tout d'abord poser un certain nombre d'éléments s'apparentant à la définition, mais plutôt à un constat concernant ce qu'est l'amour humain. Car s'il est bien une chose que chaque être humain souhaite expérimenter et vivre, c'est bien évidemment cette notion d'amour humain. On pourrait même dire que cette notion d'amour humain est inscrite dans la chair, dans le cerveau, dans le cœur et dans l'ensemble de ce qui constitue un être humain sur ce monde. Il existe toutefois des différences considérables entre l'amour humain et l'amour Christ. Pour autant, ce ne sont pas des oppositions ou des contradictions, mais bien plus des aspects de la conscience et des points de vue profondément différents, se traduisant par des vécus de la conscience elle-même profondément différents et débouchant sur des applications et des conséquences extrêmement différentes là aussi. L'amour humain peut s'éprouver pour nombre de choses. Mais en premier lieu, et dans la logique humaine, il va tout d'abord s'exprimer à travers un certain nombre de liens appartenant au lien du sang, au lien de l'affectif, au lien de certaines relations existant a priori plus facilement au sein d'une famille. Alors bien sûr, après, tout un ensemble d'amours peuvent se manifester aussi bien à travers des passions, des objets, des adhésions à des religions, à des principes, voire même à l'être aimé que l'on va souhaiter et espérer rencontrer. La particularité de l'amour humain, c'est qu'il ne peut pas s'inscrire au-delà de la naissance et de la mort. Car indiscutablement, il disparaît, même si celui-ci fut très long, dès l'instant de votre propre mort, dès l'instant où vous regagnez ce qui est appelé l'au-delà. Bien sûr, chaque être humain a fait l'expérience d'amour qui ne durait pas aussi longtemps et qui n'attend pas le fait de partir dans l'au-delà pour disparaître et être remplacé par toute autre chose. Que cela soit au sein d'une famille, que cela soit à travers l'être aimé ou à travers des adhésions à des principes, à des dogmes, à des religions. Ainsi, l'amour humain se manifeste avant tout par un certain nombre de signes, par un certain nombre d'éléments comportementaux et inscrits dans la manifestation même de l'incarnation. Cet amour prend indiscutablement sa source dans ce qui est appelé le réel au sein de ce monde, même si ce réel ne concerne pas un autre être, mais concerne l'adhésion à des concepts, à des idées, à une religion, à un principe moral. L'amour découle donc d'un principe d'attraction faisant qu'il y a, consciemment ou inconsciemment, le besoin d'échanger, de communiquer, et le plus souvent de manière inconsciente, le désir de posséder. Ce désir de posséder n'est pas condamnable en soi, il est simplement l'expression d'un manque. Et c'est là où je veux vous conduire, et j'espère que vous me suivrez. C'est que l'amour humain est bâti en premier lieu sur la notion de manque, sur la notion de vide à combler. Car pourquoi expliquer alors, et comment expliquer alors qu'un être humain aimerait plus, selon les lois du sang et de la chair, ou de l'amour qui peut exister entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes, alors qu'il ne pourrait s'exprimer à travers n'importe quel autre être humain. L'amour est donc, en quelque sorte, au niveau humain, sélectif. Il est sélectif à travers un certain nombre de résonances particulières, comme je l'ai dit, liées au sang, liées à l'hérédité, liées aux conditions, à des règles, à des attractions. Mais si vous réfléchissez réellement et prenez un peu de recul par rapport aux différents amours que vous avez pu vivre, manifester ou exprimer, il vous apparaîtra clairement que cet amour-là n'est là que pour combler un vide. Ce vide n'est pas ni péremptoire ni condamnable en soi, mais il faut-il encore en avoir la lucidité et la conscience, ce qui est loin d'être le cas, excepté avec ce que j'appellerais un recul ou le temps, au moment où justement cet amour n'existe plus et est remplacé par un autre amour. Si cet amour n'existe plus, par définition, il ne peut être éternel, il ne peut être inscrit dans une durée supérieure à la durée de la vie, et va donc conduire l'être humain à modifier ses propres actions, ses propres comportements, pour arriver à vivre cet amour. Nous vous avons appris les uns et les autres, et peut-être le vivez-vous, que l'amour est avant tout une lumière vibrale qui vibre dans la poitrine. L'amour n'est pas une idée, l'amour n'est pas un attachement. L'amour au sens vibral, au sens multidimensionnel, ne peut en rien être superposé ou calqué avec l'amour humain, fût-il le plus prestigieux, fût-il le plus romantique, fût-il le plus abouti et le plus criant de vérité. Car l'amour ne peut se définir que s'il y a relation. L'amour est avant tout une relation. Mais cette relation établie entre deux êtres ou entre un être et autre chose peut-elle se définir et se vivre comme quelque chose de libre? Qu'est-ce que l'amour libre? C'est aimer l'autre ou le sujet ou l'objet, non pas pour soi mais pour l'autre. Ainsi, le véritable amour qui rend libre est celui qui affranchit du lien pour entrer dans une relation totalement libre et équilibrée. L'expérience de l'amour humain, quel qu'il soit, montre bien évidemment que le plus souvent, la relation est loin de cet équilibre, loin de cet échange totalement libre. Le plus souvent, et implicitement ou explicitement, il existe un donnant-donnant. En effet, comment aimer l'objet de notre amour si cet objet, que cela soit une personne ou un sujet, quel qu'il soit, ne nous le rend pas? L'amour est donc, en quelque sorte, au niveau humain, tributaire d'une réciprocité. Le principe même de cette réciprocité est le plus souvent sous-jacent à la relation même de l'amour humain. L'amour sans réciprocité sera bien évidemment beaucoup moins durable qu'un amour avec réciprocité. Quoi qu'il en soit, cette forme d'amour avec ou sans réciprocité va se traduire par des phases particulières que tout être humain a vécues, encore une fois, quel que soit le domaine où il s'exprime. Une première phase appelée initiale, d'attraction maximale. Une phase ultérieure d'équilibre. Et enfin, une phase finale de déséquilibre. Ceci peut être même vécu au sein de ce qui peut être appelé un amour, non pas entre deux personnes adultes, mais par exemple dans la relation la plus commune appelée filiale. Un enfant naissant va faire l'objet de toutes les attentions et de tous les amours jusqu'à un moment bien précis où la personnalité, d'une manière ou d'une autre, va se dresser plus ou moins violemment, plus ou moins tacitement, avec autorité. À ce moment-là, bien évidemment, l'humain parle de crise d'adolescence. Et puis vient le moment de la séparation où l'amour va durer mais ne s'exprimera plus à travers une présence continue. C'est le moment où l'enfant devenu adulte va vivre sa vie et sortir plus ou moins de la vie des parents avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de facilité, plus ou moins de problématiques. Ainsi donc, il est tout à fait possible de concevoir que l'amour humain suit un certain nombre de phases qui ne sont pas toutes égales, qui ne sont pas toutes équilibrées et qui n'ont pas toutes la même puissance, qui n'ont pas toutes le même vécu, qui n'ont pas toutes la même intensité. L'amour humain est donc défini comme quelque chose de fluctuant au gré des humeurs, au gré des rythmes, au gré du temps, bien sûr. Et ce temps a toujours une fin, puisqu'au maximum, il sera limité par la mort elle-même mettant fin à la relation, même si effectivement, il peut exister des amours romantiques se poursuivant au-delà de la mort. Mais cet amour-là est juste une projection et ne peut plus être vécu dans une relation quelle qu'elle soit. L'amour humain présente donc, vous en conviendrez, un certain nombre de limites. Ces limites sont directement données et suggérées, voire imposées, par ce qui est appelé le vécu de la personne. En effet, tout le monde sait pertinemment que quelqu'un qui aura vécu un traumatisme à un moment donné de sa vie va soit reproduire, soit aller à l'inverse de ce qui a été vécu lors du traumatisme. Ainsi, les deuils, ainsi les expériences heureuses ou malheureuses vont bien malgré l'humain, bien malgré nous, colorer le restant de nos jours jusqu'à notre mort, donnant à l'amour au sens humain tel que nous l'avons tous vécu, une coloration particulière qui est issue d'un affect, qui est issue d'une expérience, mais qui n'est pas issue de la spontanéité. Alors bien sûr, il est des amours qu'il n'est pas possible de nier, il est des amours qu'il n'est pas possible non plus d'expliquer, qu'ils ne sont pas en résonance avec les liens de la chair ou du sang. J'ai pris l'exemple de l'amour filial, mais il peut en être de même pour un objet, pour une passion, pour une religion, pour tout élément présent à la surface de ce monde que vous parcourez encore. Cet amour humain, en général, peut s'exprimer sous forme d'émotion, sous forme d'affect, peut s'exprimer comme un attachement, peut s'exprimer comme un manque ou comme une plénitude. Mais quelque part est toujours sous-jacent l'élément peur. Cet élément peur est lié directement à la possibilité ou la probabilité de la perte qui est inscrite dès l'installation même d'une relation, même si bien sûr ni le parent, ni le conjoint ou la conjointe ne pensent que quelque chose va séparer l'objet de son amour de lui-même. Mais bien évidemment, c'est ce qui arrivera un jour ou l'autre de façon systématique. Les amours éternels au sens humain ne sont qu'une projection d'un idéal ne pouvant jamais se manifester du fait même de l'existence de la mort. De plus, cet amour n'est jamais manifesté au plan vibral. Car bien évidemment, si les êtres humains qui s'aimaient percevaient à ce moment-là la vibration de leur cœur, ils vous l'auraient dit, n'est-ce pas ? Et vous tous l'auriez vécu sans aucune exception, quel que soit l'objet ou le sujet de votre amour. Qui peut dire que dans l'amour qu'il a vécu par rapport à une autre personne, par rapport à un enfant, par rapport à un parent, par rapport à un objet, a pu ressentir cette vibration, cette chaleur du cœur, de manière constante. Alors, bien sûr, lors du processus initial, qui se vit le plus souvent dans l'exaltation, peut exister une perception cardiaque parfaitement décrite et reconnue comme un emballement du cœur, un cœur qui se décroche, une altération du rythme, une oppression ou une légèreté, mais en aucun cas une vibration qui s'installe de manière durable dans la poitrine. Et pourtant, cela est appelé avec le même mot que tous les autres types d'amour n'existant pas au sein de cette dimension. Ce que je veux dire par là, et ce que je veux exprimer par là, c'est que l'amour humain, quel qu'il soit, même dans son aspect le plus subtil, même dans son aspect le plus évident, ne sera toujours que le reflet de l'amour vrai, n'existant pas au sein de ce monde, tel que le Christ vous l'avait dit. En effet, la conscience de l'amour ne peut exister que dans la conscience duelle et fragmentaire. L'amour humain n'existe que dans la dualité. Il n'existe que parce qu'il y a une distance plus ou moins grande entre soi-même, au sein de la personnalité, et l'objet du désir ou l'objet de l'amour, manifesté dans une personne, un objet ou un sujet. Et c'est cette distance qui crée le besoin de relation. Car bien évidemment, si vous aviez la possibilité d'être l'autre en totalité, il n'y aurait bien sûr aucune volonté, aucun désir de s'approprier quoi que ce soit ou de manifester quoi que ce soit, puisque cet objet serait en vous en tant que conscience unifiée. Ainsi, les êtres qui se sont approchés de l'amour Christ, même s'ils ont pu appeler cela la lumière blanche et pas du nom de Christ, ou encore appeler cela l'unité ou le soi, à ce moment-là vivent un tout autre scénario et une toute autre forme de l'amour, parce que cet amour-là ne peut être décrit ni vécu dans les mêmes termes. L'amour vibral est, comme peut-être le vivez-vous déjà, en totale opposition. Mais cette opposition n'est pas exclusif ni inclusif. Cette opposition est surtout liée aux comportements qui sont induits et aux effets sur la conscience qui sont directement induits par la différence entre l'amour humain et l'amour Christ. L'amour au sein de la dualité est basé sur le manque, est basé sur la relation, sur une communication plus ou moins harmonieuse et par un échange de comportements, de regards, de gestes ou d'actes, que ceci soit appelé sexualité ou encore appelé éducation d'un enfant. Il faut bien être conscient que vous éduquez ou que vous aimez quelque chose que vous considérez comme extérieur à vous, même si cette chair est la chair de votre chair. Il y a donc une projection au sein de la conscience duelle sur quelque chose qui est extérieur à vous, ne s'expliquant pas toujours, mais vécu comme un besoin de chérir, comme un besoin d'aimer, que cela soit par les sens, par les actes, par les comportements, par la sexualité ou par tout autre moyen mis à la disposition de l'humain. La coloration de l'amour humain est bien sûr basée sur la notion de bien réciproque, cherchant à éviter au maximum la notion de mal. Alors bien sûr, il existe des histoires troublées où le mal vient s'immiscer dès les premiers instants, mais quoi qu'il en soit, que cela soit le bien ou le mal, il existe toujours au sein de la coloration de l'amour affectif humain la persistance et la présence quasi constante, conscient ou inconsciemment, de cette notion de bien et de mal. Bien évidemment, quand vous aimez quelqu'un, quand vous aimez un objet ou un sujet, vous allez chercher à faire le bien et à être bien, aussi bien avec l'objet, le sujet ou l'être aimé qu'avec vous-même. C'est d'ailleurs la caractéristique de l'amour humain, c'est de satisfaire quelque part quelque chose en vous qui fait que vous pouvez dire que vous êtes bien, que vous êtes rempli, que vous êtes dans un espèce de plaisir, voire même de joie, lié justement à cette notion de complétude, malgré la peur sous-jacente. Vous avez effectivement, et nous avons tous comblé, un vide qui est inscrit même dans la présence de l'humain au sein de ce monde. Alors, aujourd'hui, ce qui vient à vous et ce que beaucoup d'entre vous commencent à manifester est d'un tout autre registre. Déjà, au sein de l'amour humain, il y a toujours cette projection, il y a donc toujours deux. Alors que dans l'amour Christ, dans la conscience unitaire qui se déploie actuellement, l'expérience qui va être faite est une notion d'absence de peur, une notion d'absence de projection, une notion d'absence de peur de perte, et surtout un sentiment qui, au fur et à mesure de l'expérience de l'unité, va vous remplir d'un sentiment de plénitude qui ne dépend pas de la relation, justement, et qui ne dépend pas des circonstances, et encore moins d'un bien ou d'un mal, parce que cet amour-là est de manière résolue bien au-delà de toute notion de bien et de mal. Cet amour-là déclenche non pas un plaisir, non pas une plénitude, mais plus un sentiment de paix qui peut le plus souvent confiner à une joie intérieure, telle que cela a été déjà décrit, par exemple, par un ami concernant le samadhi ou la paix intérieure. Il existe aussi une autre différence fondamentale. C'est que cet amour est vécu à l'intérieur de soi. Il n'est pas lié à une projection de quoi que ce soit au sein de ce monde. Cet amour non plus n'est pas discriminant envers un être aimé, un sujet ou un objet, mais va englober de manière de plus en plus évidente et extensible l'ensemble de ce qui pourrait être appelé la manifestation ou la création. Plus l'amour Christ se déploiera, et plus vous percevrez intimement et de manière évidente l'absence de fragmentation et l'absence de séparation par rapport à l'amour. Ce qui peut vous faire dire à ce moment-là que vous n'aimez pas, mais que vous êtes devenu l'amour. En d'autres termes, qu'il n'y a plus besoin de chercher à l'extérieur une quelconque complétude, parce que la complétude est alors trouvée à l'intérieur de soi et ne dépend plus d'aucune circonstance extérieure, d'aucune peur, d'aucune projection et surtout d'aucun manque. Ainsi, cet amour, Christ, va donc remplir et supprimer la soif, comme il l'avait dit de son vivant. Ainsi, cet amour va se régénérer, en quelque sorte, de façon automatique et permanente dès qu'il sera installé, je dirais, à un certain niveau. À ce moment-là, le regard de la conscience va profondément changer, parce que vous ne pourrez plus faire de distinction, bien sûr, entre un proche aimé et quelque chose qui pourrait a priori ne pas vous concerner. Vous devenez alors capable d'exprimer et de percevoir, de ressentir la vibration du même amour pour une fourmi comme pour l'être le plus cher. Ceci n'est pas une vue de l'esprit, mais correspond à la réalité de la vibration qui s'établit à ce moment-là, sous ses différentes formes, au niveau de ce qui est appelé la couronne radiante du cœur, du chakra du cœur ou la lampe du cœur. Les différents aspects existants à ce nouveau-là, qui vont depuis la pression, la vibration et la couronne radiante ou le feu du cœur, ne sont que des différents modes d'expression d'une intensité plus ou moins parfaite de l'amour Christ. À ce moment-là, bien sûr, une révolution intérieure se produit. Cela correspond à ce que j'ai appelé la découverte de l'autonomie, de la liberté et surtout la disparition progressive de la fragmentation de la conscience, où la personne n'est plus identifiée simplement à sa petite personne, mais où la personne vit une identification bien au-delà de la personne, puisqu'il devient à ce moment-là capable d'être aussi bien la fourmi que l'être se situant au plus loin de la planète. La relation, à ce moment-là, ne connaît plus de distance, elle n'est plus une relation distanciée ou séparée, mais elle s'établit au sein d'un processus de fusionnement et de liberté bien précis, s'exprimant au travers de la joie et surtout de la vibration perçue réellement et concrètement au niveau de la zone thoracique. À ce moment-là, un certain nombre d'éléments vont apparaître, mais je laisserai l'archange Anaël, après moi, s'exprimer sur les témoins et les signes concernant la présence du Christ et l'amour Christ. L'amour Christ ne peut jamais s'éteindre une fois qu'il est né. L'expérience même instantanée et temporaire va se traduire par un souvenir qui n'est plus un souvenir ni une mémoire, mais un état permanent qui vivifie en permanence l'être, qui abolit toute distance, qui abolit la séparation et met l'être en fusion avec l'ensemble de l'univers. Le point de vue de la conscience n'est alors plus limité au petit jeu, mais s'inscrit dans le soi et n'est plus fragmenté et n'est plus tributaire d'une localisation dans le temps ou dans l'espace au sein de ce corps. Tout est vécu avec la même intensité, avec le même amour, sans aucune distinction liée à la chair, liée à l'amour humain. Est-ce pour autant que l'amour humain de l'être aimé, du sujet ou de l'objet, va disparaître ? Non. Mais là aussi, la relation vit une transcendance, parce qu'il ne peut exister la moindre différence de l'amour porté et surtout vibré, puisque cet amour se vit en soi et non plus porté réellement à l'extérieur. C'est toute la différence. À ce moment-là, quand votre regard ou votre attention se tourne vers l'être aimé, la vibration qui est émise par votre cœur est la même que quand vous tournez votre regard et que vous portez votre attention sur un arbre. Il n'existe plus aucune différence d'amour, il n'existe plus aucune valorisation de l'amour, car tout s'inscrit au sein du même amour vibral, au niveau, bien sûr, où vous l'avez déjà expérimenté dans les différents stades d'activation du chakra du cœur et de la couronne radiante du cœur. L'amour se situe à ce niveau-là. Il n'est accompagné d'aucune émotion, il n'est accompagné d'aucun mouvement et surtout d'aucune demande, car l'amour est vécu à l'intérieur du cœur et non plus dans une projection ou dans le fait de porter la conscience sur un objet aimé à l'extérieur de soi ou un sujet aimé ou un être aimé à l'extérieur. En définitive, l'amour Christ est avant tout la reconnaissance du soi en tant qu'entité christique, manifestant sa propre présence à lui-même, comme le dit l'archange Uriel à ce moment-là. Vous vous établissez dans la présence, un certain nombre de marqueurs deviennent évidents pour la conscience, vous faisant découvrir un aspect totalement inconnu de ce qui pouvait se manifester ou être créé, même dans la relation humaine d'amour la plus idyllique ou la plus romantique. Il existe donc une révolution et un changement de paradigme total lors du passage de l'amour humain à l'amour Christ. L'amour Christ libère. Il ne va pas chercher à enfermer qui que ce soit parce que justement l'amour Christ est libre. Et il accepte la liberté du sujet, de l'objet ou de l'être aimé. Il ne fait aucune différence et ne nécessite aucune appropriation. Il se suffit à lui-même en tant qu'amour vécu dans le cœur. Il n'a pas besoin de l'objet parce que l'objet est déjà en soi. À ce moment-là, il existe un processus de réunification de la conscience appelé conscience de l'unité, faisant que l'être humain prend peu à peu ou brutalement conscience que l'ensemble de l'univers est en lui et que tout ce qui est vécu est vu à l'extérieur ou perçu à l'extérieur n'est qu'une propre projection de ses propres manques. Alors, à ce moment-là, l'être va exprimer, manifester le fait d'être complet et unifié. L'amour, Christ, n'est rien d'autre que la complétude et l'unification au sein de la vérité de la lumière blanche. Seule la lumière blanche est capable de conférer cet état de paix, de sérénité, cet état de certitude intérieure ne dépendant d'aucune circonstance extérieure. L'amour Christ ne peut jamais avoir peur. Même s'il disparaît, ne serait-ce qu'un instant, il a déjà été vécu, et ce qui a été vécu est inscrit dans l'éternité et ne peut jamais disparaître en totalité. Bien sûr, il existe des fluctuations de cet amour Christ pouvant être en quelque sorte modifiées de façon temporaire par les affects et par les traumatismes ou les souffrances de la vie ordinaire au sein de l'amour humain. Ainsi donc, tout oppose l'amour humain à l'amour Christ. Cela ne veut pas dire non plus pour autant qu'il faille séparer l'amour humain pour ne vivre que l'amour Christ. Sinon, cela serait à nouveau un enfermement au sein d'une conscience illusoire appelée luciférienne. Un enfermement de nature non plus cardiaque, mais bien nombrilesque ou égotique, correspondant donc à un enfermement dans l'illusion de la lumière. La différence est essentielle, car elle va conférer à celui qui vit réellement l'amour Christ la capacité à aimer en soi, non pas pour s'approprier, mais parce que réellement la conscience comprend et vit l'expérience que tout est en soi. Il n'y a plus besoin de projeter quoi que ce soit à l'extérieur, la complétude s'établit d'elle-même par la présence du Christ en soi. Ces quelques éléments sont surtout destinés à vous faire approcher une compréhension ultime et intime, je dirais, de l'amour humain par rapport à l'amour Christ. Bien évidemment, et encore une fois, il n'est pas question de rejeter l'amour humain, mais de vivre l'amour Christ, et à ce moment-là, vous constaterez que l'amour humain deviendra en totalité transformé par la lumière Christ et la vibration Christ, vous permettant de vous affranchir et d'affranchir l'autre d'une relation qui pouvait être jusqu'à présent basée sur la peur, sur le manque, sur la chair, ou sur un besoin quel qu'il soit, soit-il sexuel, affectif ou sensuel. Découvrir l'amour Christ, c'est vivre la plénitude, c'est vivre l'absence des affres du manque, c'est vivre enfin la paix, c'est vivre enfin la complétude, c'est vivre enfin la certitude de l'établissement du cœur. Tout ceci est réalisé par le déploiement d'un certain nombre de nouvelles fréquences. Cela vous a été expliqué longuement depuis de nombreuses années. Je ne reviendrai pas dessus, mais sachez simplement que l'on peut dire que le fondement de l'amour au sein de la personnalité est bien sûr le premier chakra, basé sur le sang, basé sur la sexualité, basé sur la séduction, basé sur l'appropriation, sur le besoin d'identification. L'amour Christ s'établit, lui, exclusivement dans le cœur. Et sa fondation, bien sûr, est la porte étroite appelée le point Od. Cette nouvelle fondation est la fondation de l'amour, permettant d'établir la vie non plus au sein du corps de personnalité, mais au sein du corps de l'amour ou corps d'être-té. L'amour de la personnalité sera toujours basé sur une certaine forme d'opacité, car même dans la relation la plus authentique, il existe toujours des zones d'ombre. Non pas que ces zones d'ombre veulent être cachées de l'un ou de l'autre des personnages, mais elle fait partie intégrante de l'histoire liée à ce qui a été vécu par la personne depuis sa naissance au sein de cette incarnation, sans même parler de son karma, sans même parler de blessures plus anciennes ou de blessures plus archétypiennes. Alors que l'amour Christ prend sa fondation dans la porte étroite. L'amour Christ ne prend plus naissance et ne s'appuie plus en quelque sorte sur un quelconque manque, un quelconque désir lié au chakra, appelé Muladhara chakra, Svadhisthana chakra et Manipura chakra. Les fondations de Anahata sont le point Od. C'est donc la porte étroite, c'est le moment où la personnalité n'a plus besoin de revendiquer quoi que ce soit, même au sein de l'amour humain. Alors bien sûr, l'époque que vous vivez se fait par le déploiement de la lumière Christ réalisée par Métatron. C'est ce qui est en train exactement de vous arriver. C'est en train exactement d'envahir votre conscience, chacun à votre rythme, vous permettant d'expérimenter dans un premier temps et de vivre cet amour Christ bien au-delà de l'amour humain, sans pour autant renier l'amour humain, mais en le transcendant en totalité, en l'éclairant en quelque sorte. À ce moment-là, les zones opaques de l'amour liées au niveau de la personnalité deviennent des zones de transparence totale. En effet, l'amour de l'unité ne peut exister au sein d'une quelconque opacité, mais ne peut devenir en totalité rayonnant que quand existe la transparence totale. Saisissez bien que la transparence dont je parle n'est absolument pas une transparence d'idées, une transparence de mots, une transparence d'intention, mais bien la transparence du cœur elle-même qui va permettre d'établir une relation du fait même de la transparence où rien ne peut être arrêté, où rien ne peut être bloqué, où rien ne peut être approprié. L'amour humain est effectivement, et en définitive, une forme d'appropriation. L'amour Christ est en définitive une restitution. Là est toute la différence du sens de l'amour. L'amour humain est donc une projection vers l'extérieur de l'objet de son désir ou de son amour. L'amour Christ est donc une absence totale de projection, puisqu'à ce moment-là, la conscience vit qu'elle est entière à elle toute seule, mais que dans ce « elle toute seule » est contenu l'ensemble des univers, des mondes et des créations, des sujets, des objets et des êtres aimés ou non aimés. Cette révolution de la conscience est vraiment le passage de la porte étroite. Ce passage de la porte étroite, une fois que les affres de Lucifer et d'Ariman sont transcendées, permet de ne plus vivre la peur du manque, permet de ne plus vivre la moindre projection dans un futur, mais permet et stabilise l'être dans sa conscience de l'instant présent. L'amour ne peut exister que dans le présent. L'amour Christ ne peut exister dans une quelconque projection dans un futur, et encore moins dans le poids d'un passé. D'ailleurs, l'amour Christ ne peut être présent que si vous-même êtes installé dans le présent, c'est-à-dire dans votre présence et dans la vibration. Ainsi, il va vous devenir de plus en plus facile de saisir et d'expérimenter et de vivre la différence fondamentale existant entre l'amour humain et l'amour Christ. Ceci est directement relié à l'arrivée de la lumière blanche en totalité au sein de ce monde. Se traduisant là aussi, au-delà de ce que je viens d'exprimer par rapport à la conscience, par des signes, par des témoins, par des symptômes, si vous préférez, extrêmement précis, qui vous seront développés ultérieurement, juste après moi, par l'archange Anaël. Voilà les généralités que j'avais à exprimer. Ceci correspond, bien sûr, vous l'avez compris, très exactement au sentier correspondant à ce qui est appelé Od à ici et Kiristi à clarté. C'est ce qui fait le lien et ce qui transcende, ce qui est situé au niveau du sacrum, c'est-à-dire dans l'étage correspondant grosso modo au premier chakra avec le cœur. D'une part par la porte étroite, Od, d'autre part par le point Kiristi, situé entre les omoplates et donc au niveau du nœud qui enserre ce qui est appelé le chakra du cœur dans sa partie postérieure, et d'autre part les points Clarté et Ici, qui correspondent, eux, à une transcendance du sacrum, à une transcendance de ce que vous verrez qui est appelé Ik et Répulsion. Cela sera développé dans quelques jours. Ainsi donc, vous pouvez voir qu'à travers cette connexion qui s'établit à l'intérieur de l'être, entre la zone thoracique, Od et Kiristi, et la zone du sacrum, Clarté et Ik, et ici, vous allez pouvoir littéralement transcender les affects, transcender les liens de l'amour humain en une forme d'amour beaucoup plus libre et beaucoup plus vaste, où jamais, vous n'aurez jamais, jamais soif. L'amour Christ va vous remplir. Il va supprimer en vous le manque, ce manque qui a été initialisé par la falsification d'Ahriman et de Lucifer, vous ayant enfermé dans ce manque, bien sûr, et vous faisant appeler amour ce dit manque. Là est toute la subtilité de l'amour humain, dans sa déviation en quelque sorte, mais aussi dans sa noblesse, car c'est au travers de l'amour humain que l'être humain va découvrir, malheureusement, le plus souvent à travers des souffrances et des pertes, que j'ai moi-même vécu de mon vivant dans ma dernière vie, extrêmement intenses, qui permettent de déboucher sur l'amour Christ. La souffrance n'est donc pas à s'auto-imposer, loin de là, mais elle arrive un jour ou l'autre sur le chemin. Il n'y a pas d'autre possibilité que de vivre cette crucifixion afin de pénétrer en totalité l'amour Christ. Mais retenez bien que ce n'est pas vous qui déclenchez par votre propre volonté cette crucifixion, mais que celle-ci se déclenche à l'échelon maintenant global de l'humanité et collectif afin de vous faire pénétrer en totalité dans la lumière Christ. Il reste donc à assimiler, non pas tant au niveau mental, mais plus au niveau vibratoire, ce que j'ai dit. Les sentiers ont été là pour ça et ils sont là pour ça. Cela fait partie des ultimes enseignements que nous vous avons communiqués, vous permettant là aussi de vous en dépouiller pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire à la vibration Christ, à l'amour Christ. C'est ce retour-là qui aujourd'hui est en œuvre. Et toute souffrance pouvant exister n'est que le reflet, finalement, de votre difficulté plus ou moins grande que nous avons tous vécue à vous abandonner au Christ. Mais si vous faites un pas vers lui, il en fera trois vers vous. Car si vous l'accueillez en unité et en vérité, alors à ce moment-là, il vous comblera et vous remplira. Et ceci n'est pas extérieur à vous. Ceci n'est pas un sauveur extérieur, mais bien un état de conscience intérieur à manifester, à concrétiser, à révéler et à dévoiler en totalité. Alors il vous faut seul passer cette porte étroite de la crucifixion pour ressusciter à ce que vous êtes en vérité, bien au-delà des affects, bien au-delà des émotions, bien au-delà des conventions de ce monde, pour pénétrer votre royaume, qui n'est pas de ce monde, comme il vous l'avait dit. À vous de le découvrir, à vous de l'expérimenter, car à ce niveau-là, il n'existera jamais aucun mot qui sera capable de vous faire adhérer. Car il n'est pas question d'adhérer, mais bien de vivre en vérité cela par la vibration. L'amour Christ est une lumière, la lumière blanche. L'amour Christ est une vibration, le feu du cœur et le feu de l'esprit, mettant fin au feu des passions, au feu des pulsions de l'âme et du corps, appelé feu électrique. La transcendance du feu de l'ego, ainsi est son autre nom, vous permet de vivre en totalité le feu de l'esprit. Mais ces deux feux ne peuvent pas coexister. Le feu de l'ego est ce qui vous entraîne vers plus de désirs, plus de passions, plus de besoins. Le feu de l'esprit, au travers de Christ, est ce qui vous amène à une complétude, à une absence de besoins, à une absence de désirs. C'est cela qu'ont toujours exprimé les mystiques dans toutes les traditions. Aujourd'hui, vous allez rencontrer et vivre le mystique. Le mystique vient à vous afin de vous sortir des illusions, si tel est votre abandon. Voilà les quelques éléments que je souhaitais vous donner. S'il existe, mes frères et mes sœurs, des questions par rapport à cela, alors je veux bien compléter ce que j'ai dit et je vous écoute avec grand plaisir.
Des questions ?
Comprenez bien, pendant que vous réfléchissez, que vous n'avez pas à vous priver d'un amour humain, de l'être cher, de l'objet ou du sujet. Car toute privation vous éloigne encore plus de l'amour Christ. Mais c'est bien d'une transcendance qu'il s'agit, et non pas d'une élimination ou d'une éradication. C'est modifier les règles et les cadres de l'amour et en vivre l'expérience. Mais ce n'est jamais renoncer, si ce n'est non pas à l'amour, mais renoncer à certaines formes de possession qui vous permet de trouver l'amour Christ. Jamais il ne vous a été demandé de renoncer à quoi que ce soit, car le renoncement introduit au sein de la personnalité par la personnalité sera toujours une violence faite à l'âme qui ne permettra jamais de trouver l'esprit. Mais c'est bien la transcendance de l'esprit qui se trouve, qui permet de dépasser et de transcender par la lumière elle-même et son intelligence la plupart des attachements, quels qu'ils soient.
Question ? Pas de questions.
C'est une question.
Oui.
Est-ce que ça signifie alors qu'il n'y a plus d'échange de tendresse qui passe par le corps, ou que cet échange de tendresse par le corps est transcendé par la vibration ?
Est-ce que ça signifie qu'il n'y aurait plus d'échange de tendresse par le corps, ou que cet espace corporel est transcendé par la vibration ?
Chère sœur, la question ne se pose pas. La tendresse logique et humaine, même dans le respect de chacun, signifie bien sûr un besoin. De même qu'il existe un besoin d'être massé, de même qu'il existe un besoin de manger. Cela fait partie des besoins appelés physiologiques, cela a déjà été développé. Mais vous constaterez par vous-même que quand l'amour Christ vous envahit, l'ensemble de ces besoins tendent à s'atténuer, voire à disparaître. Cela n'est pas une volonté de la personnalité, mais bien une transcendance. Vous n'avez pas à manifester de par votre volonté à supprimer en quelque sorte un besoin quel qu'il soit, car cela serait une erreur fondamentale. C'est l'intelligence de la lumière au sein de la lumière Christ et de l'amour Christ qui va transmuter et transcender certaines formes de besoins qui ne sont pas les mêmes pour chacun. Il n'y a rien à renier dans l'amour Christ. Il y a tout à intégrer, car tout est intégratif.
Oui.
Pourriez-vous donner un exemple de transcendance de l'amour humain ?
Pourriez-vous donner un exemple de transcendance de l'amour humain ?
La transcendance de l'amour humain, en général, va sortir tout simplement d'un processus de personnalisation. Qu'est-ce que le processus de personnalisation ? C'est-à-dire qu'il est évident que vous comprenez que le type d'amour et la manifestation de l'amour que vous portez à un enfant, à votre conjoint ou conjointe et à un objet ne s'exprime pas de la même façon. Il existe donc un processus de personnalisation. Au sein de l'amour Christ, il ne peut plus exister de personnalisation. Le même amour s'exprime pour l'ensemble de la création. Car il est vécu à ce moment-là, bien au-delà d'un mécanisme intellectuel, mais réellement dans le vécu de la conscience, qu'il n'existe pas de séparation entre le brin d'herbe et l'être aimé. Et vous? C'est cela que vous êtes appelé à vivre et à découvrir dans ce qui vient à vous. Car en définitive, c'est toujours la personnalité et l'ego qui cherchent à bâtir, de par les peurs et les vides, un désir bien logique, car inscrit effectivement au sein même de la cellule et du cerveau humain, et au sein des précipitations que je qualifierais d'arimaniennes et de luciférienne, ce besoin compulsif de l'être humain à aimer quelque chose à l'extérieur de lui, et de manière personnelle. L'amour humain est donc une personnalisation. La transcendance de l'amour humain qui débouche sur l'amour Christ est une dépersonnalisation. De soi comme de l'autre. De soi comme du sujet. De soi comme de l'objet.
Autre question ?
Des moments dans l'expérience d'une certaine expansion de conscience de cette dépersonnalisation. Mais par moment, pourquoi est-ce que des instants encore si fugaces, pourquoi ça ne s'installe pas?
Qu'est-ce qui empêcherait des instants de dépersonnalisation vécus dans certains états de conscience?
Qu'est-ce qui empêcherait
des instants de dépersonnalisation vécus dans certains états de conscience de perdurer?
Je n'ai pas compris le sens de cette phrase.
Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on...
Je n'entends pas.
Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on vit des états de dépersonnalisation tels que vous avez pu les décrire, ces états ne durent pas?
Cela a été exprimé à de nombreuses reprises. Le mécanisme d'installation de la conscience Christ est tellement éloigné sur le plan vibratoire de la conscience de la personnalité que le feu de l'ego est remplacé progressivement par le feu de l'esprit. Quelque chose doit s'éteindre pendant que quelque chose d'autre s'allume. Ce processus se fait par étapes. Cela vous a été expliqué fort longuement. Il est très rare que ce processus, même initial, qui prenne l'ensemble de la conscience, puisse s'établir en définitive, en totalité, dès le premier instant. Et cela, d'autant plus que vous avez avancé en âge au sein de cette incarnation. Si vous regardez l'histoire de certains mystiques, vous vous apercevrez qu'ils ont vécu leur révélation de l'unité et l'accès à la conscience Christ, en général très jeune. Parce qu'à ce moment-là, les cadres, les différents cadres de la personnalité ne sont pas aussi figés, aussi construits, si vous préférez, que ceux qui sont établis lors de la maturité. C'est en ce sens que nous vous avons toujours dit, les uns et les autres, de ne jamais vous inquiéter pour les enfants, car n'ayant pas la structuration mentale nécessaire, pour eux, le processus de la conscience christique est en quelque sorte inné et naturel. Ce qui n'est pas le cas quand le feu de l'ego s'est développé. Le feu de l'ego se développe en deux stades. Le premier stade, qui est un stade arimanien, qui apparaît à 7 ans. C'est la constitution de ce qui est appelé le corps éthérique. Et puis dans un second stade, à 14 ans, avec la constitution du corps astral, qui est totalement verrouillé à 21 ans avec la constitution du corps mental. Avant 21 ans, il est beaucoup plus facile, aujourd'hui comme avant, de vivre la conscience Christ qu'au-delà de cet âge.
Autre question ? Nous n'avons plus de questionnements, nous vous remercions.
Mes frères et sœurs, je rends grâce pour votre écoute bienveillante et pour notre échange. Je vous donne la paix de la lumière, tout mon amour, et je vous dis certainement à très bientôt pour un autre échange. Avec l'amour et pour l'amour. À bientôt.